Lundi 16 octobre, l'info sur RMC.
RMC 9h. Le rappel de l'actualité, Chloé Cambrelin.
J'ai apprécié qu'Emmanuel Macron donne hier l'exemple des CP dédoublés en matière de lutte contre les inégalités. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, confirme que 2500 classes de CP ont été concernées en REP plus les zones les plus en difficulté à la dernière rentrée. Sur RMC BFM TV, il annonce que l'État va se donner les moyens de poursuivre cette politique.
L'an prochain, CE1 en réseau d'éducation prioritaire renforcé, oui. Et les CP en réseau d'éducation prioritaire. Parce que vous savez, il y a les deux catégories, REP et REP+.
Exact.
Donc cette année, on a fait REP+. L'année prochaine, on fait les CP de REP. Et on fait les CE1 de REP+, c'est-à-dire la continuité.
Il va falloir embaucher pour ça ?
Oui, bien sûr, oui.
Vous allez embaucher combien ?
Ah ben, on a fait nos calculs. C'est entre 3500 et 4000 enseignants nouveaux qui seront dans le premier degré l'an prochain.
À la rentrée prochaine.
À la rentrée prochaine.
Jean-Michel Blanquer qui affirme que bien sûr il faudra augmenter la rémunération des enseignants quand on le pourra. Il renvoie sur ce point aux négociations menées par son collègue de l'Action publique, Gérald Darmanin. Jean-Michel Blanquer qui est contre la suppression du brevet et du bac, mais qui veut les réformer. Pour le brevet, ce sera dès juin prochain. Les quatre matières principales, un oral et une note sur 800 points avec 50% de contrôle continu et 50% noté à l'examen final. Pas d'école ce matin au collège Didier Dora du Bourget. En Seine-Saint-Denis, les professeurs exercent leur droit de retrait. Après un accident survenu jeudi, le portail de l'établissement est tombé sur deux élèves, les blessant grièvement, l'un à la cheville, l'autre au bassin. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, annonce ce matin un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles pour l'an prochain. Parmi les objectifs, l'allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Sur TF1 hier soir, Emmanuel Macron a également précisé que la lutte contre le harcèlement dans les transports, notamment, serait l'une des priorités de la future police de sécurité du quotidien. Hier soir, toujours, le chef de l'État s'est engagé à recevoir les maires de banlieue. Ils se réunissent aujourd'hui à Grigny, en Essonne, avec des associatifs pour des états généraux de la politique de la ville. Le président de l'exécutif catalan demande à Madrid un délai de 2 mois pour négocier. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, avait laissé à Carles Puigdemont jusqu'à 10h ce matin pour dire s'il avait ou non déclaré la semaine dernière l'indépendance de la région. Puigdemont affirme en tout cas qu'il ne suivra pas les indépendantistes les plus déterminés qui exigent en urgence la proclamation d'une république. 276 morts, 300 blessés, c'est le dernier bilan communiqué ce matin après l'attentat de samedi en Somalie. Attaque au camion piégé attribué par les autorités aux islamistes Chebab. Marseille, 4e de Ligue 1 ce matin. Hier soir, l'OM a fait match nul à Strasbourg, 3 partout. Et puis en rugby, Clermont a réussi son entrée en Coupe d'Europe. Victoire 26-21 hier au Pays de Galles contre les Ospreys. Toulon a battu sur le fil les Scarlets 21-20 à Mayol.
9h03. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
9h03, merci Chloé, on vous retrouve demain. Chloé, nous sommes dans nos bureaux de vote. 2 bureaux de vote, évidemment, comme tous les jours. Vous avez peut-être regardé, suivi Emmanuel Macron hier soir, peut-être pas, vous avez fait autre chose, vous nous racontez. Hein. 3216rmc.fr, il fait très beau, il faut dire. Bon, Mathieu.
Oui. Jean-Jacques, oui, la Mathieu. Question peut-être.
Oui, la question.
Emmanuel Macron, vous est-il convaincu ? Oui ou non, par SMS, au 6-10-71, on va en parler avec vous au 32-16.
Oui, selon notre sondage Harris Interactive avec Atlantico, 61% des Français n'ont pas été convaincus. Et puis notre second bureau de vote, tout à l'heure.
On va parler du hashtag balance ton porc et on va parler d'une manière générale, d'une parole qui se libère. Se libère-t-elle seulement ? Avec le scandale Harvey Weinstein aux États-Unis, de plus en plus de femmes qui s'expriment et à travers ce hashtag balance ton porc, elle dénonce des situations, des hommes parfois, nommément, des situations de harcèlement, de violence sexuelle. Faut-il dénoncer les harceleurs sur les réseaux sociaux ? En les nommant, ce sera notre question à 9h30 tout à l'heure.
Mais attention, hein, parce que vous risquez d'être, s'il n'y a pas eu de plainte déposée, vous risquez d'être poursuivi.
Alors, nous recevons une avocate spécialiste du harcèlement au travail qui pourra répondre à ces questions.
À ces questions.
En attendant, vous avez vu peut-être ce hashtag balance ton porc ce week-end. Vous avez
envie
d'y réagir, de nous dire ce que vous en pensez, d'apporter votre témoignage. 3216rmc.fr et le Facebook Bourdin Direct, évidemment, où vous nous suivez en live vidéo. Vous êtes en studio avec nous grâce aux caméras qui sont autour de vous, Jean-Jacques.
Bien, 9h05, allez Aurélien, pour commencer, en attendant Jean-Sébastien Ferjou, journaliste et directeur de l'Atlantico, qui sera avec nous dans quelques minutes. Aurélien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.
Hein,
Aurélien, vous êtes livreur. Vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir?
Oui, j'ai regardé du début à la fin. Alors j'étais plutôt convaincu sur les réponses qu'il donnait aux questions. J'étais un peu moins convaincu par les questions de vos collègues. Mais voilà, mais je pense que sur les réponses, il a été plutôt pédagogue, il a expliqué. Il a assumé tout ce qu'il a dit. Et je crois que c'est une bonne chose, qu'il y en a plein qui se traitent débiles en disant « Ah non, je suis désolé, patati, patata ». Non, il a assumé ce qu'il a dit.
C'est vrai qu'il assume. Il assume.
Exactement. Mmh. Et voilà, mais je trouve que voilà, faire 20 minutes sur les petites phrases, je trouve ça assez nul. Il y a des choses bien plus importantes qui se passent en France et dans le monde, et je trouve ça un peu dommage.
Alors là, je suis tellement d'accord avec vous, Aurélien.
Et là, Jean-Jacques, je suis désolé, mais je vais vous mettre un petit peu en accusation.
Allez-y.
Parce que je suis désolé, parce que à chaque fois qu'il y a un petit mot, une petite phrase sur les fainéants, ceux qui ne sont rien, sur le bordel, à chaque fois, vous faites un de vos deux bureaux de vote sur ce sujet-là. À chaque fois, avant 8h, vous recevez des invités qui parlent de ça.
Brunet, Neumann, à chaque fois, n'exagérons rien, non, Aurélien.
À chaque fois, mais très régulièrement.
Non, mais attendez, Aurélien. Donc,
vous ne pouvez pas dire c'est nul, les journalistes ne parlent que de ça, et à la fin,
Aurélien,
vous aussi participez à ça.
Vous permettez.
Mais par la moitié de l'émission, c'est dommage, quoi.
Vous permettez que je m'explique. On en parle parce qu'on doit en parler. Parce que quand le président de la République emploie des mots et les circonstances, les conditions dans lesquelles ces mots ont été employés, nous devons en parler. Je dis simplement, mais je ne suis pas du tout en contradiction, je dis simplement qu'hier, il n'était pas question de ne pas en parler, je dis simplement que compte tenu de la situation mondiale, du risque nucléaire, il était évident hier soir qu'il fallait commencer l'interview par les questions du monde et les questions internationales. Parce que c'est le président de la République, parce que c'est la première fois qu'il répond à des questions en direct. Donc les questions internationales aujourd'hui, avec les emportements, avec les divagations de Donald Trump, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec toutes les questions de terrorisme, permettez-moi de terminer, le monde, l'environnement, parce que le monde est aussi en danger, le réchauffement climatique ou autre, l'Europe, et ensuite, évidemment, toutes les questions franco-françaises qu'il a sont extrêmement nombreuses. Et parmi les questions franco-françaises, la façon qu'a parfois Emmanuel Macron d'employer des mots familiers, à tort ou à travers, ou parce que c'est sa nature, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un ordre, parce qu'il est président de la République. Simplement ça, Aurélien.
Mais
vous pouvez pas nous dire, vous avez insisté sur le mot bordel. On l'a fait et on devait le faire, Aurélien.
Oui, pardon. Mais peut-être pas la moitié de vos émissions, quoi, comme vous dites.
De nos émissions. Là, c'est l'exercice. Mais Aurélien, l'exercice-là n'a rien à voir avec une émission qu'on peut faire en quotidien.
C'est vrai que je me permets d'être aussi un peu en accusation vos collègues, parce que voilà, franchement, faire sur l'1h10, faire 20 minutes sur les petites phrases, mais je trouve ça ahurissant. Tous les sujets dont vous avez parlé, mais c'est rien à côté des petites phrases, quoi. Voilà, vous parliez des changements climatiques, mais c'est la pire crise qui va arriver dans les décennies qui arrivent. On n'arrive pas à se débarrasser, entre guillemets, de 100 000 migrants qui débarquent. Il y en a des dizaines de millions qui vont débarquer à cause du réchauffement climatique. Et ça, on n'en parle jamais. Je trouve ça ahurissant. Oui, on aurait dû parler de ça en premier, mais pas des petites phrases. Je trouve ça complètement nul de la part de vos collègues qui ont été quand même assez nuls. Ils ont laissé le président parler. C'est bien qu'il explique qu'au bout d'un moment, il fallait plus de questions et puis être un peu plus, pas agressif, mais voilà. Là, ils ont laissé parler.
C'est un peu mou, quand même. Aurélien, à l'heure des charges. Quand on est trois pour une interview d'une heure, voilà ce que ça donne. Merci Jean-Sébastien Ferjou, bonjour.
Bonjour
Jean-Jacques. Directeur d'Atlantico, qu'en pensez-vous? Vous avez entendu l'échange que nous venons d'avoir avec cet auditeur?
J'en pense que oui, l'interview a passé un peu beaucoup de temps sur la question des petites phrases ou du vocabulaire qu'emploie Emmanuel Macron. Je pense que la phrase sur le bordel, ça n'était pas qu'une petite phrase, et ce qui se jouait n'était pas que le mot bordel, c'était l'idée sous-jacente, à savoir, il s'adressait à des gens dans un conflit social qui habitaient à 200 km plus loin, en disant ben voilà, à l'endroit où je me trouve aujourd'hui, il y a des emplois, ils pourraient venir en chercher ici. Ce qui peut montrer quand même une forme de, d'aveuglement ou de difficulté à comprendre la manière dont la réalité se pose pour les gens qui effectivement auraient à déménager. Leur conjoint, il va pas forcément trouver du travail, il faut vendre une maison dans une ville qui est pas forcément, qui a pas forcément beaucoup de demandes immobilières. Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec d'ailleurs ce qu'il a dit hier soir et qui est l'essence même du macronisme. C'est-à-dire qu'en général, on entend beaucoup le diptyque libérer, protéger, libérer, protéger, libérer, protéger. Il y aura les deux temps dans le quinquennat et les réformes ont vocation à assurer les deux. Mais Emmanuel Macron, hier soir, il a dit autre chose qui est un peu dissonant par rapport à ce libérer, protéger. Il a dit « la société change, je n'ai pas vocation à vous protéger de ce changement, mais à vous armer pour y faire face ». Et c'est parfaitement respectable comme philosophie politique, mais c'est une philosophie politique qui peut-être ne convient pas à l'ensemble des Français. Et justement, la fameuse petite phrase, oublions le mot bordel, c'est pas le mot bordel qui était intéressant. C'était vraiment l'idée qu'il y avait en dessous. Et moi, je trouve que c'est une idée qui, à l'heure de la mondialisation, à l'heure où réellement la manière dont fonctionne l'économie mondiale laisse un certain nombre de gens sur le côté de la route, et après, c'est un fait, c'est pas Emmanuel Macron qui en est responsable, mais comment on traite cette chose-là, ça me paraît un point intéressant.
Alors Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce qui vous a manqué? 61%, c'est le sondage Atlantico RMC Harris Interactive qui a été réalisé après, auprès de ceux qui ont regardé et de ceux qui ont écouté ensuite les interventions sur les différentes chaînes de télévision. Pourquoi 61% de Français qui n'ont pas été convaincus, selon vous? Pourquoi?
Après, il y a aussi, sur ceux qui l'ont regardé en entier, 54% de Français qui ont été convaincus. Oui, mais enfin, moi, je trouve que les deux indicateurs ont un sens, parce qu'à l'arrivée, il y a 9,5 millions de personnes, on l'a su ce matin, qui ont regardé Emmanuel Macron. Donc, sur 41 millions d'électeurs, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 30 millions qui ne l'ont pas regardé. Donc, l'opinion se formera par rapport à, justement, au bruit médiatique.
C'est à la fois beaucoup, et en même temps, c'est un peu décevant, parce que TF1 pensait à plus de 10 millions. Alors, c'est beaucoup, et, mais bon. 36% des personnes
mais
devant la télévision.
Justement, peut-être que ce qui manque, moi, ce que je le trouve pas forcément très concret, Emmanuel Macron. Oui. Il reste beaucoup au niveau de la théorie, et après on peut adhérer ou pas à la théorie en fonction des points qu'il aborde, mais par exemple l'assurance chômage, qui va être le prochain grand chantier du quinquennat. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de la formation et de l'apprentissage, mais peut-être ça reste un peu, même si c'est extrêmement utile, et que en l'état c'est un système où il y a énormément de gaspillage, plus de 30 milliards d'euros par an qui ne servent pas à grand chose, sur la réforme de l'assurance chômage, qui peut peut-être être un peu plus naturelle dans les préoccupations des Français, on l'a pas entendu, justement, comment est-ce que ça va se traduire concrètement? Va-t-il y avoir une réduction de la durée d'indemnisation, une dégressivité des allocations, etc.? Il n'était pas forcément très très concret, et puis je l'ai trouvé sur la première partie justement assez sur la défensive, justement plutôt que dire bah écoutez, vous savez quoi, je ne voulais pas blesser les gens, je ne voulais pas blesser les gens, et voilà ce que j'ai vraiment voulu dire, mais je comprends malgré tout que mes phrases aient ému un certain nombre de nos concitoyens. Ça aurait été, à mon sens, peut-être plus utile que d'essayer de répéter en permanence. C'est les journalistes qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Et vous êtes un peu tous cons. Parce que non, il me semble, on avait fait un autre sondage avec RMC et Harris Interactive après la fameuse phrase sur le bordel. Il y avait quand même 57% des Français qui avaient été choqués. Et surtout, surtout, les deux tiers des Français qui considéraient que à avoir ce genre de propos-là, ça affaiblissait sa capacité d'action politique plutôt que ça la renforçait. Donc son point de vue sur je nomme les choses. Ben, peut-être qu'il a, enfin, il a le droit d'ailleurs de faire tout ce qu'il veut, le président de la République, mais manifestement, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'obtenir de l'efficacité.
Bien, il est 9h13 minutes. Vous réagissez évidemment 3216rmc.fr. Mathieu.
Notre question ce matin, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Vous nous le dites par SMS, oui ou non, au 6-10-71.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h16, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est journaliste directeur d'Atlantico. Vous savez qu'avec Atlantico, RMC et Atlantico, nous avons demandé à Harris Interactive de consulter les Français qui ont regardé ou qui ont suivi les émissions, qui ont enchaîné après l'intervention du président de la République. On demandait aux Français ce qu'ils pensaient de cette intervention. Alors globalement, 61% ne l'ont pas trouvée bonne et 54% de ceux qui ont regardé strictement l'ont trouvée bonne.
En entier.
En entier, voilà. Bon, alors, c'est un peu compliqué tout ça. Enfin bon, c'est pas un grand succès. Voilà ce que je peux, pour résumer. 9h17, vous êtes sur RMC. Allez-y, vous appelez 3216rmc.fr. Bon, c'est vrai que l'Europe a été totalement oubliée hier soir. L'Europe et le monde. Pardon, mais
Oui, après, ça pouvait être un choix du président, mais effectivement,
parce c'est assez... Attendez, j'arrête. Je vous arrête là. Comment un choix du président? Pourquoi me dites-vous cela, Sébastien?
Ben, un choix conjoint du président et des journalistes.
C'est le président qui fixe les sujets.
Je ne crois pas que ce soit le président qui fixe l'ordre du jour.
J'ai eu peur un instant d'entendre ça.
En revanche, je pense que l'ordre du jour a été défini en accord entre TF1 et LCI et le président de la République.
Et pourquoi ça?
Parce que c'est comme ça que fonctionnent les élections présidentielles. Effectivement, on pourrait poser la question pourquoi faut-il se mettre d'accord, mais en général, en France, pour
pourquoi
les élections...
Pourquoi doit-on mais en France, parce qu'on a des pratiques...
Mais je vous dis pas qu'on doit, je constate que ça se
fait. Mais oui, mais c'est insupportable, ça me rend fou, ça.
Je vois bien,
ça. Mais évidemment que ça me rend fou. Comment? Alors, donc, on appelle l'Élysée, on dit à l'Élysée, ah ben voilà, voilà de quoi... Quels sont les sujets qu'on va traiter? Voilà. C'est comme ça que ça se passe, Jean-Sébastien? Parce que moi je connais pas
comme
ça.
Ça, mais
vous connaissez ça mieux
non,
que moi.
Non, je n'ai jamais fait d'élection.
Non, mais vous savez comment ça se passe. Mais vous savez comment ça se passe.
Et vous aussi, je crois.
Dans les relations avec l'Élysée, non? Avant une interview.
Je pense que les thématiques, c'est pas les questions.
Alors,
non,
mais
pour la précision, ce sont pas les questions qui sont définies à l'avance. Les thématiques sur lesquelles va porter l'interview.
Bon. Et la hiérarchie, l'ordre?
Je ne sais pas. En l'occurrence, ce qui a été fait là, je crois que parfois c'est abordé aussi.
Eh ben, parfois on peut dire à l'Élysée, ben écoutez, nos journalistes décideront des sujets qui seront traités. Et de l'ordre.
Ah, mais en termes de culture journalistique, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes d'accord avec moi?
Absolument.
Bon. Parce que, enfin, j'espère que ce ne sont pas les journalistes qui ont choisi de commencer pendant 20 minutes sur les petites phrases, hein. Sur le mot bordel, qui dépasse la petite phrase.
Je pense que le président avait envie de s'expliquer là-dessus.
Ça, c'est normal.
Et on l'a senti parce qu'il aurait aussi pu mettre de lui-même un terme beaucoup plus rapide à cette séquence-là de l'interview. Il l'a entretenu d'une certaine manière. Il n'y a pas eu tant de relance que ça quand vous y pensez sur ce thème-là. C'est lui qui avait besoin d'en parler. Et je pense que s'il a choisi de parler maintenant, c'est peut-être précisément parce qu'il se rendait compte qu'il commençait à y avoir un enjeu au sein de la société française par rapport à ces petites phrases qui entrent en résonance avec cette thématique du président des riches.
Dans tous les cas, il y a une qualité qui est reconnue par plusieurs auditeurs ou auditrices, c'est qu'il assume. Il assume ses choix. Et il ne cédera pas. Je regardais les éditoriaux ce matin, beaucoup de commentateurs disent Emmanuel Macron ne cédera pas sur ses réformes, il ne cédera pas. C'est ce qu'il a, le message qu'il a aussi voulu faire passer.
Pour le coup, on est dans le registre de la communication, parce qu'il ne cède pas, on verra bien à l'arrivée, parce que en l'occurrence, sur une des promesses de sa campagne électorale, moi, ce que j'ai entendu, c'est plutôt un demi-rétro-pédalage hier soir sur, vous savez, la possibilité pour des démissionnaires de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Hier soir, ce que j'ai entendu du président, c'était plutôt qu'il y mettait tout un tas de conditions qui font que la mesure, elle aura probablement...
J'ai regretté que là, on n'aille pas plus loin, parce que là, il avait... Là, c'est vrai qu'il était...
Donc après, c'est aussi de la com' de dire, je suis déterminé, j'assume, je vous le dis, mais c'est... Après, il y a quand même que l'action qui tient lieu de preuve, en quelque sorte.
Vous avez raison. Guylain, vous êtes à Neuilly-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Guylain, vous allez bien?
Bien, vous?
Mais très bien. Que nous dites-vous? Vous avez regardé ou pas?
Ouais, j'ai regardé. Au départ, j'étais pas trop chaud. Franchement, je me suis dit justement, c'est peut-être un gros coup de communication, que ce soit du côté d'Élysée ou que ce soit du côté des journalistes, hein, des deux côtés. Hein. Ça peut être un coup de communication des deux côtés. Hein. Et puis finalement, même moi au départ, enfin, je vous dis franchement, je n'allais pas voter pour lui. Hein. Et puis plus le temps passe et plus je l'apprécie sur sa façon de voir les choses, sur sa façon de dire les choses.
Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce que vous appréciez, Guylain?
Il est clair. Enfin, beaucoup de gens disent que c'est le président des riches. Hein. Je trouve ça complètement faux. Moi, je suis pas riche et je me sens représenté par Monsieur Macron. C'est sa franchise, c'est sa façon de voir les choses. Il sait dire les choses sans être méchant. C'est sûr qu'il y a eu cette phrase il y a une quinzaine de jours là sur ceux qui foutaient le bordel. Enfin, foutaient le bordel. À mon avis, Jean-Jacques, vous le dites aussi régulièrement. Hein, c'est pas non plus le mot dramatique. On fout le bordel. Bah ouais, on fout le bordel. Ils foutent le bordel. Moi, j'aurais peut-être dit la même chose. C'est sûr, c'est le président de la République. Mais en même temps, moi, ça me gêne pas parce que Je me dis, bah, de toute façon, il est comme nous. Hein. Il parle, c'est franc sans parler, c'est direct, c'est sorti, c'est pas méchant. Les gens qui veulent,
est-ce mal, que je peux vous poser une question un peu indiscrète, Guylain? Vous avez voté pour qui?
Au deuxième tour, j'ai voté pour Marine Le Pen.
Vous avez voté pour Marine Le Pen?
Oui, j'ai voté pour Marine Le Pen. Je suis, je crois, du vote au Front National depuis pratiquement 3-4 ans. Depuis, ouais, 3-4 ans.
Et, c'est un président de droite, Emmanuel Macron.
Bah pour moi, il n'est ni de gauche ni de droite. Je pense qu'il a envie de redresser vraiment la France. Oui. Pourquoi? Parce que je vous disais dès le départ. J'ai pas voté pour lui du tout. J'avais un peu peur. Et il me plaît de plus en plus, franchement. J'aurais même envie de le croiser, de le rencontrer. Alors que les anciens présidents, ils ne disaient rien du tout. Alors que lui, j'ai vraiment envie de le voir. J'aurais vraiment envie de lui parler. Je pense qu'il est là pour... Il a envie et je pense qu'il va réussir à redresser le pays. Pas complètement, ça va être difficile. Il lui faudra peut-être encore 5 ans de plus pour réussir à faire ce qu'il a à faire. Quand j'entendais M. Blanquer, c'est ça, M. Blanquer, ce matin...
Blanquer,
excusez-moi, franchement, c'est un très bon ministre de l'Éducation nationale. Mmh. On voit que bah, derrière, les décisions, on les prend pas tout seul. Il y a quand même un président de la République qui est là, ils discutent ensemble. Il y a des choses qui vont être faites aussi au niveau de l'Éducation nationale, et on voit que M. Macron, bah, voilà, et je pense que les médias, voilà, ils disent beaucoup. Vous dites beaucoup de choses, les médias. Mais voilà quoi, il y a beaucoup de choses qui sont dites. J'ai encore écouté BFM ce matin au président des riches et tout. Non, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas une minute. C'est le président.
Écoutez, RMC Découverte le matin.
et il veut redresser le truc. C'est pas le président de Pierre Togiac, c'est le président de tout le monde. Je pense qu'il va y arriver.
Mais Jean-Sébastien Ferjou.
Je pense que aux prochaines élections, je pense que là, je voterai pour Rigoval.
Bien. Vous entendez, Jean-Sébastien Ferjou, voilà un électeur de Marine Le Pen qui est séduit. Il est séduit par quoi, selon vous?
Quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, oui. Justement, parmi oui. les gens qui font confiance à Emmanuel Macron, ce qui vient en premier lieu pour justifier le fait qu'il lui fasse confiance, c'est qu'il dise qu'il fait ce qu'il dit et oui. qu'il agit probablement en comparaison avec les quinquennats précédents qui avaient pu donner l'impression de beaucoup de promesses et puis finalement peu suivi des faits. Donc je pense que Guylain, justement, c'est ce qui doit le convaincre, c'est qu'Emmanuel Macron, malgré tout, agit. Quand on le prend dans l'autre sens, ceux qui disent qu'ils ne font pas confiance à Emmanuel Macron, le premier qualificatif qui revient, c'est justement cette thématique du président des riches. Donc, manifestement, Guylain voit plutôt l'action que cette espèce de soupçon de président des riches. Et après, là où on peut le rejoindre justement là-dessus, c'est que malgré tout, ça n'est jamais qu'une perception. Et puis, tous les présidents, d'une certaine manière, en général, ont une forme de proximité avec les riches dans le pays. Enfin, ça paraît quand on est au pouvoir. En général, non mais la réalité elle est là, la réalité elle est que tous les régimes politiques, que ça a été François Mitterrand ou les quinquennats qui ont suivi, ont négocié des accords avec les plus grandes familles françaises. Liliane Bettencourt n'aurait pas été française, ou en tout cas résidente fiscale française, s'il n'y avait pas eu un accord du temps des socialistes au pouvoir entre la famille Bettencourt et Bercy. Donc voilà, à un moment arrêtons aussi l'hypocrisie. De toute façon, oui, un président par nature, il y a forcément des liens avec les riches. Ce qui compte, c'est entend-il aussi les autres? C'est le seul sujet.
Bien, merci Guylain. Jean-Sébastien Ferjou, nous allons écouter ce que disent les auditeurs. Mathieu.
Emmanuel Macron, vous est-il convaincu? Réponse finale, non à 60%.
Bien, 9h26, tiens. Le sondage n'est pas loin, hein, vous l'avez vu. Hein. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Ferjou. Merci. Il est 9h26. Second bureau de vote dans quelques minutes.
Hashtag allez. Balance ton porc. Faut-il dénoncer les harceleurs sur les réseaux sociaux en les nommant? Oui ou non, par SMS au 610-71.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, il est 9h29, notre second bureau de vote. Mathieu, rappelons le sujet.
Hashtag balance ton porc. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux ce week-end, sur Twitter en particulier, des femmes, des milliers de femmes qui dénoncent des situations, des expériences de harcèlement, de violences sexuelles parfois, qui dénoncent en citant même leurs agresseurs pour certaines d'entre elles. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourrait se retourner contre elles? Faut-il balancer concrètement, nommément, faut-il dénoncer les harceleurs sur les réseaux sociaux en les nommant. Vous votez oui ou non par SMS au 6-10-71.
Il est 9h29 et je vais prendre tout de suite, nous allons avoir avec nous Maude Beckers, qui est avocate spécialiste des questions de harcèlement au travail. Mais tout de suite, Kevin, qui est professeur des écoles en Loire-Atlantique. Bonjour Kevin.
Bonjour Loïc.
Bonjour. Alors Kevin, que dites-vous? Dites-moi.
Alors, donc moi j'ai découvert donc ce hashtag hier en parcourant un peu les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marqué en fait. J'ai vu toutes ces toutes ces dénonciations d'actes qui souffrent d'aucune contestation, qui relèvent presque du viol, et aussi tous ces petits actes du quotidien. Pour qui on pourrait facilement se laisser aller à parler d'humour potache, graveleux. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la souffrance de ces femmes au travers de leurs messages, qui décrivaient des fois des situations avec beaucoup d'émotion. Et moi, ça m'a révolté. Ça m'a vraiment révolté. Ça m'a fait ouvrir les yeux aussi sur la complicité qu'on avait peut-être tous, même si nous sommes pas tous des porcs, pour reprendre l'expression. Je pense qu'on a tous une complicité parce qu'on a tous plus ou moins ri à une blague potage d'un copain, d'un cousin, d'un oncle, où on n'a pas dénoncé, on a pu faire sans dénoncer, on a laissé faire. Et moi, voilà, ça m'a vraiment révolté, à tel point que j'ai voulu lancer l'idée d'une grande marche des hommes du 21e siècle, qu'on se réunisse pour une sorte de marche expiatoire, puis surtout une marche pour s'engager à changer ses comportements et à faire vraiment de l'égalité homme-femme quelque chose d'indispensable au 21e siècle en France et partout dans le monde. Donc voilà, j'invite tous les hommes à se réunir dimanche prochain partout en France. J'ai lancé un hashtag « Je marche pour les femmes ». Voilà, pour qu'on envoie un signal. Bien sûr, ça n'effacera pas tout, mais c'est prendre un engagement pour nos filles. Moi, je suis papa d'une petite fille depuis 6 mois. Pour nos femmes, pour nos mères, je pense qu'on a trop laissé faire. Et moi, voilà, je suis vraiment révolté en lisant tout ce que j'ai lu. En toute honnêteté, j'avais beaucoup d'émotions même. J'étais presque à pleurer en lisant certains messages, en disant mais oui, ces petits actes du quotidien, on doit les dénoncer de manière très forte, et ça doit plus exister. Ça doit plus exister aujourd'hui.
Bien, bah merci beaucoup, Kevin. Mathieu, vous avez beaucoup de messages à ce propos.
Quelques réactions. J'étais en train de regarder. Oui. Du coup, l'appel que lance Kevin, bah du coup, allez le voir sur Facebook, parce que j'étais en train de vérifier ce qu'écrivait Kevin, et effectivement, il a lancé ça. Je marche pour les femmes sur le Facebook de Kevin, en l'occurrence avec un appel à la mobilisation. En l'occurrence, dites-nous ce que vous en pensez. La réalité, le message qui est revenu assez souvent, et qui d'ailleurs est revenu assez souvent sur les réseaux sociaux ce week-end aussi, c'est l'inquiétude du fait qu'on a toute une histoire à raconter sur ce hashtag, et c'est là que c'est inquiétant. Vous allez nous dire si c'est votre cas, vous allez apporter votre témoignage ce matin à 3216rmc.fr.
Maître Maude Beckers est avec nous, avocate spécialiste des questions de harcèlement au travail. Bonjour.
Bonjour.
Alors, une jeune femme qui a été victime de harcèlement, je parle pas d'agression sexuelle, de harcèlement, qui va sur Internet et qui dénonce le harcèlement, son harceleur, risque-t-elle d'être poursuivie ou pas ?
Alors avant de répondre à cette question, il me semble essentiel de comprendre pourquoi elle en vient à dénoncer son harceleur sur un hashtag tel que celui-là et qu'elle le fait médiatiquement, en tout cas publiquement.
Oui.
Elle le fait malheureusement parce que les femmes victimes de harcèlement sexuel, notamment dans l'entreprise, aujourd'hui ont un accueil réservé par les institutions qui est extrêmement critiquable. Critiquable que ce soit auprès des services de police ou que ce soit dans l'entreprise. Donc ce sont des femmes qui en règle générale ont des choses à dire très facilement, puisqu'on dit qu'elles ne parlent pas, mais en règle générale elles parlent. La preuve en est quand on leur tend un micro, elles répondent. Et même dans l'entreprise, on a vu par exemple des expériences faites auprès de la médecine du travail. Quand un médecin du travail va poser systématiquement la question à une femme, est-ce que vous avez été victime de harcèlement sexuel ? Malheureusement, la réponse va souvent être oui, quand elle n'est pas quasi souvent oui. Donc en fait, elles parlent parce qu'on ne les entend pas. Et ça, il faut bien le comprendre. Moi qui suis avocate et qui défends majoritairement des femmes victimes de harcèlement sexuel, ce sont des parcours de guerrières et de combattantes. Donc ce sont des femmes qui, à un moment donné, en ont marre et vont en effet saisir ce genre d'opportunité. Alors, est-ce qu'elle risque quelque chose ? J'ai envie de vous répondre, malheureusement, oui. Elle risque en effet, si elle nomme avec le nom très précis, il y a toujours les risques de diffamation. Et j'ai envie de vous répondre aussi comme avocate militante, parce que je suis pas que juriste, hein. Je suis pas que juriste, c'est parce que sinon je ne ferais pas ce métier qui est de défendre les femmes et les salariés victimes de harcèlement sexuel au travail. Eh bien, c'est que malheureusement, le droit des femmes se conquit souvent en marge d'une législation qui est assez réactionnaire. Et souvent, eh bien, quand on veut faire évoluer le droit des femmes, eh bien, on fait des choses qui sont un peu illégales pour pouvoir faire prendre conscience de certaines choses. Et là, ces femmes-là, en effet, s'exposent peut-être à une démarche illégale, mais elles sont dotées d'un certain courage. Par contre, il faut qu'elles sachent qu'après, collectivement, il va falloir s'organiser si elles sont attaquées.
Si elles sont attaquées, est-ce que vous recommandez, tout simplement, à une femme qui a été victime d'un harcèlement au travail, est-ce que vous lui recommandez d'aller sur Internet et de désigner celui ou celle? Pourquoi pas?
Encore une fois, il y aura une différence entre mon discours d'avocate juriste et celle de l'avocate militante. Ouais. C'est-à-dire que la juriste va l'inciter à plus de prudence et va l'inciter à aller chercher...
Mais pourquoi plus de prudence? Pourquoi?
Bah parce que malheureusement, on est dans un système où quand les femmes ne parlent pas...
Il faudrait qu'elle ait déposé plainte pour que...
On peut ne pas être condamné pour diffamation même si on n'a pas porté plainte. C'est pas une nécessité.
Bah oui, donc.
Le problème, c'est que quand on porte plainte, en effet...
Où est le risque?
Le risque, c'est de se faire poursuivre. Et malheureusement, les harceleurs ou les agresseurs, eux, n'hésitent pas à poursuivre. Hein. Donc, c'est de se faire poursuivre, mais ça ne veut pas dire qu'on se fera condamner. Il faut pouvoir apporter ce qu'on appelle l'exception de vérité, c'est-à-dire pouvoir se justifier sur les faits qu'on avance. Donc, j'ai envie de dire que la réponse tient aussi un peu et dépend du dossier, c'est-à-dire que si on a la preuve de ce qu'on avance, on court un risque bien évidemment moins important que si on n'a aucune preuve. Mais le vrai conseil qu'on doit donner à ces femmes, c'est de s'organiser au sein de l'entreprise, notamment auprès des délégués du personnel, de parler collectivement, éventuellement d'y aller en groupe, car quand on est ensemble, quand on est majoritaire et quand on ose porter...
Oui, parce qu'on peut être harcelé, plusieurs à être...
Mais c'est malheureusement le cas.
Harcelé par la même personne.
Mais oui, c'est souvent ce qu'on constate, malheureusement, dans les dossiers. Quand il y en a une qui commence à parler et qui ose le faire, eh bien, elle est souvent
d'autres
suivie.
D'autres s'expriment. Mathieu ?
Qu'en est-il de... pour l'avenir, de la preuve? Est-ce que vous conseillez à ces femmes-là de faire des captures d'écran de SMS, d'enregistrer des conversations de...
Alors, c'est une très bonne question que vous posez parce que, là encore, le droit est extrêmement réactionnaire en ce qui concerne la preuve. Il faut comprendre qu'on est face à un système totalement aberrant qui est que lorsqu'une femme veut réagir face à un harcèlement sexuel, elle a deux possibilités d'action. Une, contre le harceleur, la personne physique au pénal, ou là, l'apport de la preuve est relativement accepté, notamment les enregistrements qu'on appelle clandestins, c'est-à-dire enregistrés sur un téléphone portable, celui qui est en train de vous harceler en direct. Par contre, quand il s'agit d'aller devant l'employeur pour faire sanctionner l'employeur qui notamment a licencié abusivement, parce que c'est ça le problème en France qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est que les femmes, le harcèlement sexuel est d'autant vécu de façon difficile qu'elles perdent leur emploi. Une fois qu'elles les ont dénoncées. Et bien là, quand elles vont vouloir aller devant les juridictions sociales pour prouver le harcèlement sexuel et prouver que leur licenciement est abusif et nul, et bien les enregistrements clandestins qu'elles ont pris sera refusé. Et ce, en violation du droit européen à l'heure actuelle en la matière. Mais encore l'année dernière, une femme qui avait la preuve, vraiment on dit pas noir sur blanc, mais en tout cas par écoute, du harcèlement sexuel, s'est fait débouter parce qu'on l'a accusée d'avoir eu un comportement déloyal. Accrochez-vous tout de même. Elle se fait harceler, elle en apporte la preuve en enregistrant, qui est le seul moyen pour elle de pouvoir le prouver parce que dans l'entreprise, eh bien elle était toujours seule quand ça lui arrivait. Eh bien on l'a accusée de comportement déloyal devant les juridictions sociales. Donc au niveau de la preuve, il faut qu'il y ait des évolutions, et si les juges ne sont pas capables de créer une jurisprudence favorable, il va falloir que le législateur le fasse.
9h38, allez, nous allons observer une première pause, et puis vous continuez la question.
À voter notamment le hashtag balance ton porc, faut-il dénoncer les harceleurs sur les réseaux sociaux en les nommant, oui ou non, par SMS au 610-71.
RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h41. Maître Maud Beckers, qui est avocate spécialisée des questions de harcèlement au travail, est avec nous. Nous allons prendre Patrick, qui est chef d'entreprise à Niort, dans les Deux-Sèvres. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité également.
Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de cette initiative sur les réseaux sociaux?
Alors, cette initiative, effectivement, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, elle permet de défendre effectivement le droit des femmes. Et là, je suis à 100% d'accord avec elle, bien entendu. Après, j'ai peur qu'il y ait une certaine dérive parce qu'on connaît déjà des pétitions en ligne, on connaît déjà effectivement pas mal de choses qui se mettent en place. Et ça me rappelle une certaine sale époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, mais où la dénonciation, effectivement, était plutôt devenait légion au quotidien. Et j'ai peur qu'on, dans un système de fonctionnement qui soit celui-ci, alors la cause des femmes, bien entendu, et c'est très bien de le faire, et malheureusement, j'espère en tout cas de tout cœur que ça puisse changer quelque chose, mais j'en suis absolument pas certain. Et mais plus encore, j'ai peur que demain la dénonciation devienne effectivement monnaie courante et qu'on dénonce son prochain ou qu'on dénonce son voisin ou qu'on dénonce effectivement son professeur ou une relation quelle qu'elle soit d'ordre divers et varié, et qu'on se serve des réseaux pour dire ben voilà machin, il a pas coupé ses arbres à hauteur de 2 mètres comme il devait faire, et puis demain ça sera l'autre qui roule effectivement avec une galette à la place d'une roue de secours depuis nana. Voilà, on peut effectivement aller dans tout type de dérive, et très sincèrement ça me fait un peu peur. Voilà, ça me fait un peu peur. Je pense qu'il existe peut-être d'autres moyens, malheureusement, pour défendre la cause des femmes. C'en est un, ça va certainement faire un électrochoc et c'est très bien. Je ne pense pas qu'on puisse résoudre le problème de cette manière-là, mais encore une fois, Jean-Jacques, j'ai peur pour la suite, j'ai peur pour l'avenir, parce que j'ai peur qu'on rentre dans un système de dénonciation systématique. Et on le voit déjà avec change.org ou avec tout type de pétition en ligne. Mais là, on va encore plus loin parce que la dénonciation, effectivement, qui est faite, on arrive même, effectivement, à nommer la personne qui a fait. Alors, qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait autre chose. Et ça, j'entendais l'avocate qui disait, attention, parce qu'effectivement, il y a peut-être le risque, effectivement, de diffamation. Les femmes risquent d'être, pour elles, en tout cas, emmenées, effectivement, devant les tribunaux, certes. Et là où les propos de l'avocate m'ont retenu toute mon attention, c'est quand elle a dit il va falloir s'armer. Voilà, il va falloir s'armer, il va falloir combattre, ça va pas être facile, mais il va falloir effectivement qu'on fasse bloc. Alors ok pour cette cause-là, encore une fois, hein, que je défends véritablement, mais par contre, pour le reste, je suis très inquiet de cette dénonciation à outrance qui peut se faire, qu'elle soit légitime ou pas. Voilà, c'est
peut-être bien, Patrick, Maud Beckers vous répond. Maud Beckers.
Oui, j'ai envie de dire qu'on est loin de la dénonciation à outrance et de la dérive. La dérive, elle est de l'autre côté, la dérive, et que actuellement dans les entreprises, on trouve ça tout à fait normal de pouvoir croiser une collaboratrice dans un couloir et de lui dire qu'on va en arriver d'elle toute la nuit et qu'elle va finir par être baisée, ou que si elle n'accepte pas, elle va perdre son emploi. Elle est là, la dérive, actuellement. Et il faut bien comprendre quand même qu'on est loin de dénonciations totalement qui ne tiennent pas du tout la route, les propos. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est les propos de ce hashtag. On comprend bien que les femmes ne sont pas en train de révéler et de dénoncer des faits qui pourraient être de la séduction. Ce qu'elles révèlent, ce sont des faits extrêmement graves. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que là où on est loin de la dérive, c'est qu'il y a quand même que 5% des femmes qui portent plainte. Donc on est loin tout de même d'un comportement des femmes aujourd'hui dans notre société qui viennent se plaindre systématiquement de ce qu'elles vivent dans l'entreprise. La dérive est plutôt du côté des hommes qui ont l'impression que c'est impuni. Alors oui, là, je comprends bien qu'il doit y avoir plusieurs hommes qui doivent craindre en ce moment que leur nom soit cité sur ce hashtag. Je comprends que ça effraie. Malheureusement, encore une fois, quand on est avocate et qu'on voit comment les victimes sont accueillies dans les commissariats, comment elles sont accueillies devant les juridictions, comment elles sont accueillies devant les conseils de prud'hommes, comment elles sont accueillies par les collègues de travail, eh bien, on peut comprendre qu'à un moment donné, elles craquent et qu'elles se disent que collectivement, elles peuvent peut-être apporter une petite pierre à l'édifice.
Mais au contraire, oui, Patrick.
Vous me permettez 2 secondes, mais au contraire, et je partage à 300% ce que vous venez de me faire, ce que vous venez d'évoquer. Hein, mais au contraire, je suis chef d'entreprise. Je travaille qu'avec des gars. On n'a pas de secrétaire ni d'assistante. C'est moi qui fais tout. Mais non, je suis d'accord à 300%. La dérive, elle vient pas par rapport à l'objet, à ce qui est cité actuellement. C'est simplement demain, on peut dénoncer quelque fait que ce soit autre que celui-ci qui est une cause grave. Et que je partage, et effectivement, j'adhère à 300% avec le combat qu'elle mène toutes, bien entendu. Mais la dérive, je voulais simplement faire partager qu'elle pouvait venir sur d'autres sujets, d'autres thèmes, et qu'on allait rentrer dans un système un peu machiavélique. Voilà, c'était simplement ça. Mais je partage bien à 300% la cause des femmes, effectivement.
Bien, merci, voilà. Patrick. Mathieu,
j'entends ce que dit Patrick, et j'entends ce que vous dites aussi sur la réception des plaintes de la part de ces femmes quand elles vont dans un commissariat, qu'elles ne sont pas entendues. C'est important dans ce point-là, puisque du coup, on dénonce sur Twitter. Sauf que il y a une réalité, si on compare avec le scandale qui éclate aux États-Unis sur l'affaire Weinstein, il y a des journalistes qui ont travaillé et qui apportent des preuves, des éléments vérifiés, comme le veut le travail d'un journaliste là sur Twitter. Et c'est un peu ce que dit Patrick, et il n'a pas complètement tort. N'importe qui peut balancer absolument n'importe quel nom en pâture, et il suffit d'avoir
il peut y avoir des dénonciations, X milliers de fausses dénonciations, de followers. Vous y croyez ou pas, Maître Becker?
Non, mais on n'est pas dans cette circonstance-là. Évidemment que je suis pas en train de dire qu'il faut aller dénoncer n'importe quel homme qu'on apprécierait pas en l'accusant de n'importe quoi. Là n'est pas le débat. Le débat est de se rendre compte qu'on est dans une société en France au 21e siècle où on donne beaucoup de leçons sur ce qu'est le féminisme en ce qui concerne quand on veut critiquer certains quartiers populaires où on dit oh là là quand on va à la chapelle ils savent pas respecter les femmes, etc. Non, il faut arrêter. En France, dans les entreprises bien pensantes avec des chefs d'entreprise en col blanc, eh bien, on a des problèmes de harcèlement sexuel qu'il faut dénoncer. Et je le répète encore une fois, tant qu'on n'entendra pas la parole des femmes et qu'on l'accueillera pas, eh bien oui, on peut assister à ce genre de choses.
Bien, on va terminer avec Roger qui est retraité, qui est à Mélac dans le Finistère. Bonjour Roger.
Oui, bonjour Monsieur Bourdin.
Merci d'être avec nous. Vous étiez directeur de magasin.
Voilà, directeur d'un grand hypermarché, effectivement. Ouais.
Vous avez licencié un employé qui allait trop loin avec, avec les employés femmes.
Tout à fait. De retour de vacances, cet individu avait pris en photo son sexe, hein, j'ai pas peur de le dire.
Ça arrive souvent, malheureusement.
Il m'était venu à l'oreille que le personnel du laboratoire s'en plaignait, donc j'ai demandé aux gens de bien vouloir s'expliquer. En présence de syndicats, j'ai écouté, ça a corroboré, j'ai convoqué l'individu, qui s'est fait représenter par le syndicat également, par un autre syndicat. Il reconnaissait pas, mais il disait que bon, c'était pour s'amuser, etc. Ça a pas traîné. Dans les 10 jours, je l'ai licencié, j'ai pas eu prud'homme, j'ai pris mes responsabilités, j'ai jamais eu de problème. Et voilà. Voilà.
Oui, monsieur a appliqué la loi et a eu exactement le bon réflexe.
Voilà, exactement. Et s'il m'avait mis en prud'homme, j'attendais que ça, parce que là, je peux vous dire que j'en aurais fait bien du tintouin, et il n'aurait pas recommencé, et ça aurait calmé tout le monde. Je n'ai jamais eu aucun problème après.
Bien, merci Roger pour le témoignage. Merci.
Merci Bourdin de m'avoir prié. Bonne journée.
Je vous en prie, merci, au revoir. 9h48, Mathieu, que disent les auditeurs?
Le hashtag balance ton porc, faut-il dénoncer les harceleurs sur les réseaux sociaux en les nommant? Vous avez voté oui ce matin, oui à 60%.
Voilà, Maud Beckers, oui à 60%. Vous voyez les auditeurs d'RMC, qu'en pensez-vous?
J'ai dit depuis le départ.
Bon, merci, il est moins 10. Les trophées PME, bougeons-nous, ça approche. Hein, la remise des prix, c'est mercredi. Allez, nous allons recevoir l'un des lauréats dans un instant. À tout de suite.
RMC présente les trophées PME Bougeons-nous.
Les trophées PME Bougeons-nous, j'ai eu l'idée il y a 8 ans, vous le savez, et ça s'est développé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un immense succès pour ces trophées PME. Vous savez que vous pouvez défendre votre entreprise et lui permettre de franchir un palier en participant à ces trophées PME chaque année. Là, nous allons récompenser les lauréats 2017, mercredi soir. Et parmi les finalistes, nous avons dans la catégorie artisanale la confiserie du roi René. Bonjour. Laure Pierre-Isnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de cette PME artisanale qui est située à 10 minutes d'Aix-en-Provence, 100 salariés, qui fabrique calissons, nougats et autres confiseries provençales. C'est bien cela, hein?
Oui, c'est ça, hein, tout à fait.
Vos calissonneuses nous écoutent peut-être, hein.
J'espère.
Je dis calissonneuses parce que quand on fabrique des calissons d'Aix, on est appelé calissonneuse.
Exactement, en fait, les calissonneuses, ce sont les personnes qui façonnent le calisson, qui est l'étape vraiment la plus, on va dire, sensible pour réussir un beau calisson. C'est le passage de la pâte de calisson à un vrai calisson avec les différentes couches qui se succèdent et notamment la finition de glace royale qui vraiment parachève le calisson.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un calisson?
Vous êtes filmé. Faites attention, parce qu'on vous voit regarder les calissons.
Non, mais parce que j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a dans un calisson? Quelle est la recette du calisson d'Aix-en-Provence?
Alors, la recette traditionnelle du calisson d'Aix-en-Provence est un mélange d'amandes finement broyées avec des fruits confits à Apt, qui est la capitale des fruits confits, donc essentiellement du melon, mais également pour le roi René, notre secret, c'est aussi l'écorce d'orange confite qui amène un goût agrume très frais au niveau du calisson.
Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Mathieu?
Ça tombe bien, je faisais une crise hypoglycémique.
En plus, vous avez des calissons traditionnels et puis de nouveaux calissons.
Oui, alors je vous ai amené aussi notre nouvelle collection, les calissons d'exception. En fait, ce sont des calissons qui sont déclinés autour d'ingrédients de qualité issus de notre terroir français, comme la figue de Solliès, la clémentine corse, la cerise du Luberon, le piment d'Espelette. Donc, c'est aussi l'idée de revisiter cette confiserie traditionnelle et de plaire aussi au plus grand nombre et notamment avec notre vision aussi de faire rayonner le produit à l'international.
Bien, les calissons du roi René. Alors, ouverture d'une boutique à Paris l'année dernière, première boutique en franchise à Miami, prochaine boutique à Lyon. Je ne me trompe
exactement.
Pas.
Hein, et entre-temps, il y aura même Nice avant la fin de l'année.
Avant la fin de l'année. Et le musée du Calisson, 50 000 visiteurs, cinquième entreprise visitée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dites-moi.
Exactement, c'est avec incroyable. Un musée qui n'a que 2 ans d'existence, donc qui est au cœur de la fabrique du roi René, et donc qui se visite librement. En fait, l'idée est vraiment de refaire découvrir notre savoir-faire au plus grand nombre de visiteurs, de leur faire déguster aussi nos bons produits, et vraiment de leur faire découvrir un peu l'envers du décor.
Oui, c'est ça, c'est la qualité de la production française, de l'identité française, le Calisson. Ça date de quand, le Calisson ?
Alors,
quelle
ça...
est l'histoire du Calisson ?
L'histoire, on dit qu'elle remonte à la création du Calisson au XVe siècle, lors du mariage du bon roi René avec Jeanne de Laval. Donc le roi René était également comte de Provence. Et cette Jeanne de Laval, sa fiancée, était connue comme une personne assez austère, maussade, qui ne souriait jamais. Et lors du mariage, le confiseur du roi a créé une douceur pour la reine. Et lorsqu'elle l'a goûté, son visage s'est illuminé, elle s'est mise à sourire. C'était un peu la première fois que tout le monde la voyait sourire. Et certains se sont exclamés « dit Kalinsoun », c'est-à-dire ce sont des câlins en provençal. Et c'est ce qui a donné le nom à Calisson, Kalinsoun. Et on dit aussi que la forme du Calisson, c'est le sourire de la reine Jeanne.
Ah ça c'est très très beau, hein. C'est très très beau, parce que le Calisson, si vous n'avez jamais vu un Calisson, c'est oblong, hein, la forme oblongue.
Ouais, tout à fait.
Hein, c'est voilà, c'est.
On dit aussi que c'est une forme d'amande.
Une forme d'amande, oui, ça ressemble, oui, tout à fait, oui, tout à fait, puisque c'est à base de pâte d'amande, quand même, hein, on peut à base de pâte d'amande. Mais dites-moi, vous en vendez combien chaque année ?
Alors, 50 millions de calissons chaque année.
50 millions de calissons chaque année, dans le monde entier maintenant ?
Alors, on est présent dans 22 pays, mais nos ventes sont essentiellement aujourd'hui encore concentrées sur la France. Et notre volonté, c'est vraiment de développer aujourd'hui l'export.
Bon, ben je suis très heureux de vous avoir mis cette entreprise à l'honneur. J'ai mis cette entreprise à l'honneur. Pourquoi je dis mise ? D'avoir mis cette entreprise à l'honneur. J'en suis très très heureux, Laure Pierisnard. Merci.
Vous également.
Merci
nous
et j'espère que nous verrons le résultat mercredi soir. Dans tous les cas, merci, hein, directrice générale des Calissons du roi René. Mathieu.
À mercredi.
Ah, mais...
Et Mathieu, je suis sûr. Au tournant.
Non. Ça, je suis sûr que vous allez déguster un calisson.
Là, je crois qu'en plus, c'est déjà, je veux dire, vous pouvez pas nous corrompre, hein. C'est déjà plié. Les jurys se sont réunis. Bon.
Ouais,
il y a des enveloppes cachées sous l'huissier.
On peut déguster
donc,
un calisson.
Voilà. Je veux dire, on peut y aller en toute
honnêteté. On va le faire, d'ailleurs, hein. On va le faire. Merci beaucoup. Il est 9h58. Nous nous retrouverons demain, toujours avec le même plaisir. À demain.
Merci.